différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est samedi 7 mars, à la veille du 8 mars, journée internationale des femmes. Et nous avons concocté, logiquement, une émission spéciale 8 mars. Alors, nous avons une invitée, Catherine Jacques, qui est historienne et qui a un peu comme mission tout au long de l'émission de nous offrir un cadrage historique. Et puis aujourd'hui, l'émission radio est au grand complet et s'est rassemblée pour partager avec vous des morceaux de texte, d'histoire, d'images, soit en rapport avec le 8 mars, soit avec le féminisme. Bienvenue donc à Mélissa, à Alexandra et à Virginie, à l'animation Hélène et à la technique Tamara. Alors, nous dédions toute cette émission à toutes les femmes en lutte. La liste est trop longue, alors on ne va pas les citer. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Catherine Jacques.
Bonjour.
Alors, je vais vous demander d'abord de rapidement vous présenter.
Eh bien, comme vous l'avez dit, donc je suis historienne. J'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire du féminisme en Belgique de 1918 à la fin des années 1960.
Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du féminisme à cette époque ?
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, j'aimerais, avant d'évoquer donc les principales étapes de l'histoire du mouvement féministe en Belgique, je crois qu'il est utile de rappeler que le féminisme, le mouvement féministe, est d'abord l'un des acteurs majeurs de la démocratisation de la société du XXe siècle. Et ce, pour dans l'ensemble quasiment de tous les pays occidentaux. Il a notamment permis l'élargissement, évidemment, de la citoyenneté politique à plus de la moitié de la population. Alors, c'est un mouvement qui est évidemment étroitement lié à l'émergence de la modernité au sein des sociétés occidentales. Et je voudrais aussi rappeler, parce que c'est toujours utile, parce que c'est toujours aussi un argument qui est utilisé par les détracteurs du mouvement, c'est que c'est un mouvement qui a des multiples facettes et surtout qui n'a pas déclaré la guerre aux hommes. Mais surtout, c'est un mouvement qui a voulu insuffler un nouveau souffle à la société, et surtout, il a voulu une plus grande égalité au sein de la société en modifiant les rapports sociaux de sexe. Et donc, c'est évidemment à ce titre-là que le mouvement féministe est très important pour la démocratisation globale, disons, de la société. Alors, de manière très synthétique, on peut considérer que le féminisme en Belgique, d'un point de vue historique, connaît trois grandes phases. Alors, une première phase qui est, disons, plutôt le féminisme pédagogique, si je puis dire, ou éducatif, qui se déploie, disons, à partir de la première moitié du 19e siècle jusqu'à la fin, à l'aube du 20e siècle. C'est véritablement un mouvement qui a voulu éduquer les femmes, qui a donc promu un enseignement de meilleure qualité. Et évidemment, c'est le paroxysme au moment où il aboutit, c'est la création évidemment du premier cours d'éducation par Isabelle Gatig-Gamon à la fin du 19e siècle, en 1864. Alors, cette étape est fondamentale parce que c'est véritablement dans ces écoles-là que la plupart des premières militantes féministes vont être formées. Et donc, c'est un véritable vivier de femmes qui vont véritablement porter des revendications féministes et créer les premières associations. Alors, la deuxième phase du mouvement, c'est la création d'un mouvement féministe de type structuré à la fin du 19e siècle avec la création de la Ligue belge pour le droit des femmes suite à ce qu'on a appelé l'affaire Poplin.
Alors, pourquoi l'affaire Poplin ?
C'est en bref, c'est une femme qui a effectivement été institutrice dans les écoles d'Isabelle Gatig-Gamon, qui à l'âge à la fin une trentaine d'années, décide d'entreprendre des études de droit à l'ULB. À la fin de ses études, tout logiquement, elle voudrait bien entrer au barreau. Et finalement, on lui refuse donc cet accès à la profession donc d'avocate. Et fort de ce refus, elle décide donc de créer la première association féministe belge revendicatrice. Et là, ça inaugure, disons, une très longue phase du féminisme belge, c'est-à-dire un féminisme de type revendicatif, de type aussi réformiste, donc qui demande en profondeur la modification des lois, et surtout, évidemment, en Belgique, dans beaucoup de pays, ça vaut pour beaucoup de pays occidentaux, donc une refonte du code civil qui, évidemment, induit l'asservissement donc, de la femme mariée à son mari.
Par exemple, allez, quelques exemples de cet asservissement.
Eh bien, évidemment, une femme est considérée donc comme une éternelle mineure. Et donc, si il y a une décision importante, par exemple, qui doit être prise pour ses enfants, si elle a une opinion qui est différente par rapport à son mari, c'est toujours son mari qui décidera, il y aura le dernier mot. Et même si elle est veuve, le conseil de famille prévaut par rapport à son avis, par rapport à l'éducation de ses enfants. Donc, c'est assez incroyable. Je prends elle ne peut pas engager son travail, elle ne peut pas toucher son salaire en main propre, même si elle travaille. Donc, c'est vraiment un ensemble de lois qui lui donne aucune autonomie.
Oui, c'est assez édifiant, c'est vrai.
Tout à fait. Surtout qu'il faut savoir que l'abolissement de la puissance maritale, elle n'aboutit que finalement très tardivement en 1958. Donc la puissance maritale n'est abolie qu'en 1958, et pour qu'elle sorte véritablement tous ses effets, il faudra attendre la refonte des régimes matrimoniaux, et ça, tenez-vous bien, c'est 1976. Donc c'est très tard.
Oui.
Donc ça signifie qu'une femme mariée ne peut pas ouvrir un compte en banque avant 1976 sans l'autorisation de son mari. Donc je crois que c'est encore plus édifiant, en tout cas ça nous touche de façon... Ça veut dire que nos mères n'ont pas pu, ou nos grand-mères n'ont pas pu ouvrir un compte en banque, même si elles travaillaient, si elles étaient complètement autonomes, même d'un point de vue économique, si elles étaient mariées, bien sûr. Et donc cette phase du féminisme, disons, revendicatif, il va se poursuivre jusqu'à, disons, la fin des années 50. Et ensuite... Fin des années 50, je dirais, début des années 60, le féminisme connaît une petite période de retrait parce qu'il y a une série de lois qui sont finalement passées, qui ont été des revendications très anciennes. Et disons, elles voient aboutir une série de leurs revendications donc, au début des années 60. Et c'est grâce à l'action de deux féministes qui sont engagées au Parlement, Georgette Sisley et Jeanne Beckman van der Velde. Et ces deux femmes, donc au milieu des années 60, ne sont plus au Parlement. Et donc il y a un moment d'essoufflement et en même temps une série, disons qu'on a une certaine forme d'égalité formelle qui est acquise au point de vue des lois. Mais évidemment, il perdure une série d'inégalités. Et c'est à ce moment-là, donc à la fin des années 60, qu'apparaît et se prépare finalement la vague de ce qu'on a appelé le néo-féminisme, qui lui va se pencher sur le mouvement de libération des femmes, où là véritablement on va interroger aussi de nouvelles, notamment on va interroger le privé pour voir comment dans la sphère privée il y a une série d'oppressions qui perdurent également. C'est la libération des corps finalement, de la parole des femmes. C'est aussi se poser la question par rapport aux questions qui étaient restées très longtemps taboues, comme le viol, le problème de la contraception, la maîtrise de la fécondité, qui évidemment sont essentielles dans une vie de femme, d'une femme mariée ou d'une femme de toute femme qui a une sexualité.
Mmh. Donc, merci pour cet éclairage historique, mais je vais tout de suite peut-être vous rendre la parole parce que je me disais que ce serait intéressant de voir un petit peu avec les auditeurs ce que c'est que le 8 mars et en quoi c'est en lien avec les luttes féministes.
Alors la première journée internationale des femmes a été célébrée en Belgique le 8 mars 1976, donc c'est pas une tradition qui est très ancienne en tout cas. Et après la France, donc il y avait effectivement célébré en 1975 une journée internationale des femmes. Et à partir de ce moment-là, c'est cette journée internationale des femmes va en quelque sorte prendre le pas peu à peu sur la journée nationale des femmes qui se passait le 11 novembre. Et donc qui là est vraiment une création du mouvement néo-féministe. Et la première journée nationale des femmes, c'est 1972. Alors c'est vrai que l'origine de la journée internationale des femmes est, disons, assez obscure dans la mesure où il y a eu une série de mythes autour de cette journée internationale des femmes. Alors, la première trace dont on trouve, qu'on trouve sur cette journée internationale des femmes, c'est en 1910, lorsque l'Allemande, qui est une femme féministe, socialiste, Clara Zetkin, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, propose d'organiser une manifestation qui témoigne donc de la solidarité des femmes et de la lutte pour le suffrage. Et à partir de ce moment-là, ce sera récupéré notamment après la révolution russe par les communistes. Et puis, il faudra se la réapproprier, j'ai envie de dire, en Europe occidentale. Et ça, il faut attendre la fin des années 50, où là, en France, on recherche finalement un autre mythe fondateur pour la Journée internationale des femmes. Et là, on le trouve, soi-disant, dans une grève qui aurait été organisée en 1857 à New York par des couturières pour réclamer une augmentation salariale et divers avantages sociaux. Voilà. Et donc, on se rend, et notamment lorsqu'en France, en 1982, on proclame la Journée internationale des femmes officiellement, donc à partir de 1982, eh bien, on va reprendre ce mythe fondateur américain parce qu'il est plus en phase, disons, avec la bienséance occidentale, si je peux envoyer ce terme-là. Mais seulement, on n'en a pas véritablement trouvé de trace de cette grève soi-disant fondatrice de cette journée internationale du 8 mars.
C'est amusant parce que ça ressemble fort à ce qui s'est passé dans les grèves de la FN à Liège dans les années 60. Alors peut-être que c'est juste une différence historique, mais ce mythe fondateur, il a vraiment existé dans les années 60.
Ah oui, c'est certainement avec la grève donc de la FN en 1966, ça c'est vraiment elle est fondamentale notamment pour redynamiser tout le mouvement féministe et notamment il va se greffer sur la vague du néo-féminisme, donc pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, mais c'est surtout la première grève qui aura une répercussion européenne et qui va utiliser le droit social européen pour justifier cette grève. Et ça, c'est fondamental. Il faut aussi savoir que ces ouvrières de la FN en 1966 se mettent en grève sans l'aval de leur syndicat. Donc c'est vraiment une grève qu'elles font notamment parce qu'elles ont suivi, et ça c'est quand même très intéressant, une formation organisée par la FGTB, mais surtout animée par Émilienne Brunfaut, qui est donc une féministe tout à fait exceptionnelle, avec un charisme extraordinaire. C'est une syndicaliste, mais c'est aussi une féministe, et donc elle va véritablement impulser et donner les arguments à ces femmes pour se mettre en grève. Elle est aidée notamment aussi par une juriste, Eliane Vogel-Polsky, qui va évidemment les aider dans cette grève et dans cet aboutissement de cette grève.
C'est amusant parce qu'entre le début de l'éducation dans les années 1850, l'éducation pour les femmes, et ce qui se passe dans les années 1960 et une formation, ça met vraiment en valeur tout le travail de formation pour rendre les femmes combattantes, puissantes, voilà. Alors, Mélissa et Alexandra, je sais que vous avez préparé quelque chose.
Bonjour, Hélène.
Mais on va peut-être d'abord faire une petite pause musicale. Alexandra, toi, tu nous as apporté un CD de Camille.
Voilà, donc moi, je propose la chanson de Camille qui s'appelle « Là où je suis née ». Et donc, voilà, c'est une chanson que je trouve très belle.
Il est
trucs.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pénique, l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Émission spéciale fête des femmes le 8 mars. Et maintenant, tout de suite, je vais passer la parole à Mélissa. Alors Mélissa, oui. Toi, tu as choisi de nous présenter un texte qui parle de mai 68, je crois.
Oui, tout à fait. Donc le titre du livre, c'est « Filles de mai ». Ce sont des femmes qui nous racontent comment elles ont vécu mai 68. Et ce sont 22 femmes qui sont adhérentes de l'APA, qui est une association pour l'autobiographie. C'est un groupe d'écriture. Et j'ai choisi un texte. Cette femme s'appelle Marie. Elle a 25 ans au moment de mai 68. J'ai choisi celui-là parce qu'il illustre de façon très, très simple et très, très courte la lutte aussi de la femme pour se libérer intérieurement aussi.
D'accord, on va t'écouter. Voilà.
Merci. Alors, donc, j'ai oublié de dire, ce livre est structuré par des mots qui commencent par A, puis jusque V. Le premier mot, c'est adolescence. Et donc, cette femme a associé ce qu'elle avait envie à partir du mot adolescence. C'est Marie qui a écrit ça. En face de ce premier mot de l'abécédaire, j'ai spontanément écrit « On me l'a volé ». Qui l'avait volé? Ou plutôt, pourquoi et comment me l'étais-je laissé voler? Croyant me libérer du poids d'une éducation rigide, étriquée et raciste, je m'étais mariée à 21 ans, majorité de l'époque. Voulant m'émanciper, je n'avais fait que m'assujettir à d'autres valeurs, tout aussi contraignantes, et rentrer dans le rang. J'avais tout fait trop vite, me fiancer, me marier, un premier enfant, divorcer. À 25 ans, il me semble être passé sans transition de l'enfance, ses interdits et ses rêves, à l'âge adulte. Mai 68 me rendit à ma rébellion passée. Non, tout n'était pas derrière moi. Mai 68 fut le début de ma véritable adolescence. J'y retrouvais mes rêves et grâce à eux, mon chemin.
Merci. Tu as un commentaire à ajouter? Pourquoi tu as choisi ce texte?
Oui. J'aimerais juste souligner le mot « mon chemin », parce que je pense que pour toute personne, ce qui est important, ma tante me disait il n'y a pas longtemps, choisir c'est aussi renoncer. Et on renonce à des choses qu'on a compris. Donc le plus important, je pense aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce qui nous enferme, de chaque être a son coinçage personnel, ses inhibitions. Je pense que c'est important de pouvoir mettre de la lumière aussi sur ce qui nous coince pour pouvoir aussi lâcher prise et avoir du courage, donc oser faire autrement.
Mmh. Oser être femme autrement peut-être.
Oui.
Alors Tamara. Alexandra, excuse-moi, depuis tantôt, je m'emmène. Tu as compilé une série de textes en provenance de l'ONU, je crois.
Voilà, donc oui, moi je me suis intéressée à la façon dont l'ONU vit cette journée des femmes. Et donc voilà, en 2009. J'avais d'abord un petit commentaire par rapport à ce que j'ai trouvé sur le site internet qui recense donc cette journée comme étant la journée internationale de la femme. Et donc moi ça me pose question parce que je pense qu'on est toutes d'accord ici pour parler de la journée internationale des femmes. Voilà. Et donc l'ONU a fêté la journée cette année le 5 mars avec toute une série de manifestations, débats. Et le thème de cette année est « Femmes et hommes unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles ». Donc voilà, je voulais vous lire des petits textes qui se trouvent sur le site internet de l'ONU. Donc c'est un point de vue, chacun en fera, et chacune en fera ce qu'il ou elle voudra. C'est intéressant de se poser la question, de savoir comment les organisations féministes se positionnent par rapport à ce que dit l'ONU, et en même temps, ces messages sont symboliques, sont emblématiques de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qui reste à faire dans le monde pour les droits des femmes. Alors, il y a d'abord le petit mot du président de l'Assemblée générale. Les difficultés économiques et les inquiétantes tensions sociales, dont les effets se font aujourd'hui sentir partout dans le monde, touchent d'abord et avant tout les plus pauvres et les plus vulnérables. Malheureusement, il est à craindre que dans les prochains mois, ces effets se fassent encore plus rudement ressentir chez les femmes et les filles. Je me réjouis donc particulièrement que le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme soit « Hommes et femmes unis contre la violence à l'égard des femmes ». Il est parfois nécessaire de passer par une crise pour éveiller les consciences et mobiliser de nouveaux partenariats. Nous devons saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous de faire progresser la condition de la femme, que la conjoncture soit favorable ou non. Voilà, donc ça c'était le premier petit texte. Le secrétaire général a aussi écrit ceci. Il y a un an, j'ai lancé une campagne appelant les peuples et les gouvernements du monde entier à s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette campagne se poursuivra jusqu'en 2015, date butoir pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, parce qu'il existe entre elles et les objectifs du millénaire un lien évident. Nous devons faire cesser cette violence ordinaire, profondément ancrée dans la société, qui détruit des vies, ruine la santé, entretient la pauvreté et entrave la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation des femmes. Voilà le deuxième. Le troisième a été écrit par le directeur général de l'UNESCO. Chaque année, la Journée internationale de la femme offre l'occasion de mesurer les progrès accomplis et de réfléchir aux défis qui subsistent sur la voie de l'égalité des sexes. La Journée internationale de la femme 2009 est la dixième et aussi la dernière à laquelle je m'associe en tant que directeur général de l'UNESCO. Et je regrette que la parité homme-femme, consacrée par la Charte des Nations Unies en 1945, puis par un objectif du millénaire spécifique, en 2000, demeure une aspiration plutôt qu'une réalité dans de trop nombreux domaines de la vie publique et privée. Voilà, donc moi c'est ce point de vue-là que je voulais apporter. Et ce qui se fait, et ce qui se dit à l'ONU, en gros résumé, bien sûr, il y a plein d'infos, et puis sur leur site, et puis il y a des choses qui se font dans la pratique, et voilà, on espère qu'il y en aura toujours plus.
Ouais, que ça va bouger.
Ça va bouger.
Alors, maintenant, on avait prévu aussi de parler avec vous de des différentes façons de fêter le 8 mars ici et ailleurs, donc. Moi, j'ai remarqué que dans certains pays, comme le Burkina Faso, ben, c'est un jour férié légal. Et puis, il y a d'autres pays où ce sont des jours de manifestation, comme en France et en Grèce. Et je sais, Virginie, que toi, tu as préparé aussi quelque chose pour nous expliquer comment on fête le 8 mars à l'espace Couleur Femmes.
Oui, Hélène, tout d'abord, bonjour. Pour le 8 mars, Journée internationale de la femme, plutôt Journée internationale des femmes, parce qu'ici, on parlait des femmes. À l'espace Couleur Femmes, l'espace Couleur Femmes, tout d'abord, c'est une antenne de vie féminine qui est située à Ixelles, où moi-même je fais partie, je participe dans cet espace. Pour cette année-ci, le 8 mars a été fêté jeudi, le 5 mars. Justement, pourquoi est-il un jour, pour moi la question, est-ce que c'est un jour comme les autres? Pourquoi et comment ça se fête chez nous à l'espace Couleur Femmes? Donc, comme je vous ai dit, l'espace Couleur Femmes, antenne de vie féminine, est situé à rue Malibran, à Ixelles. Elle accueille chaque année environ 150 femmes de différentes nationalités vivant des situations précaires. L'objectif fondamental de l'espace Couleur Femmes est d'aider les femmes à surmonter leur situation pour devenir autonomes et actrices de changement. Tout d'abord, l'espace Couleur Femmes n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, ni une école, comme certaines personnes peuvent l'imaginer, mais c'est aussi chez nous. Quand on pose la question suivante aux femmes, pour vous, c'est quoi l'espace Couleur Femmes? La plupart, elles répondent, c'est comme chez moi. C'est ma seconde famille. Alors, imaginez-vous, une fête chez vous, d'abord, il y a des préparations et ça demande une organisation. À l'espace Couleur Femmes aussi, c'est pareil. Les femmes s'organisent entre elles et en groupe. Elles se réunissent pour préparer la fête. Elles se posent des questions. Qu'est-ce que je vais mettre pour être belle? Qu'est-ce qu'on va manger? Qui sera nos invités? Quel genre de musique vais-je apporter pour mettre de l'ambiance, etc., etc. Ce sont toutes ces questions que l'on se pose quand on prépare sa propre fête chez soi. Elles envoient des invitations, elles préparent leur habillement. Certaines préfèrent s'habiller en tenue traditionnelle, les plus beaux costumes qu'elles réservent pour les fêtes exceptionnelles. Elle décide sur la façon de se nourrir. D'habitude, la cuisine du monde est la plus préférée. Chacune prépare et apporte un plat traditionnel de son pays d'origine pour le partager avec les autres. Elle décide sur les personnes à inviter, la famille, des amis, des autorités politiques, des voisines, etc. Elle prévoit également de la musique de leur goût pour mettre de l'ambiance. Elle prépare et décore les salles. Quand tout le monde est déjà prêt et que l'accueil est terminé, elle se présente les vœux, se souhaite une très bonne fête avant de passer à table. Et quand l'estomac est bien rempli, là, c'est le moment de bouger. Et je vous promets, ça chauffe. Tout le monde est debout. Tout le monde bouge sur le rythme de la musique du monde. Jusqu'à la fin de la fête, c'est de l'ambiance. Pour certaines femmes, c'est le seul lieu où elles se sentent à l'aise, où elles sont autorisées à danser, à discuter avec d'autres femmes sur des sujets qui restent encore tabous, où elles peuvent être informées de leurs propres droits. Alors, le 8 mars, ça mérite d'être fêté par toutes les femmes du monde et par tous les hommes qui croient que la société mérite un changement et que l'égalité est possible. Comme dit le dicton, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et chez vous, comment ça se fête le 8 mars? Et bonne fête. Merci.
Merci Virginie pour ce témoignage touchant qui allie douceur, fête, combat. Ben voilà, c'était vraiment très chouette. Alors maintenant, je vais passer la parole à Tamara, parce que Tamara, toi, tu voulais nous parler de la remise du prix J'en passe, j'en passe pas.
Est-ce que vous m'entendez déjà?
Oui, oui,
très bien. Alors voilà, pour le prix J'en passe, j'en passe pas, en fait, Vie Féminine offre annuellement un prix à des associations, des entreprises ou des initiatives privées, un prix qui est double. Il y a le prix Jean Pince pour féliciter et encourager des initiatives ou des actions favorables à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'autre prix, qui est Jean Pince pas, lui, il épingle et pointe du doigt des initiatives ou des actions sexistes, autrement dit, qui se confortent dans une vision conservatrice des rapports entre les hommes et les femmes, qui fait un petit peu son jeu de l'inégalité persistante entre eux. Et donc cette année, le prix J'en pense pas a été décerné à la campagne publicitaire de l'entreprise parapublique et en même temps privée Electrabel. Il s'agissait d'une campagne publicitaire dans les cinémas, à la télé et bien retapé, je veux dire, dans le sens où on a vu des petits-enfants, notamment beaucoup de petits garçons, jouer les grands hommes dans des camions, sur des panneaux sur des toits pour installer des panneaux solaires, et puis aussi du côté de la mer du Nord pour installer des éoliennes. Et donc c'est effectivement une pronostic de la société durable, de l'avenir que l'on veut pour nos enfants, mais aussi pour l'énergie verte, enfin l'énergie renouvelable, etc. Sauf que cette société-là, nous, à Vie Féminine, nous n'en voulons pas. Et pour cause, ce qui est important, c'est la société de développement durable, mais surtout de rendre aussi durables les rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes, puisque dans le petit film publicitaire, on voit une seule femme, une enfant, une fillette, qui amène des tartines à ses petits copains garçons qui jouent les grands hommes, puisqu'ils font le toit de l'isolation de la maison. Ça, c'est dans la courte pub. Dans la grande pub, longue, qui se voit au cinéma, on voit une petite fille traverser la route et se faire un petit peu alpaguer par un gentil petit garçon dans un camion. Gros, des images de clichés à mort. Et donc ça nous a quand même interpellés, parce que certes, on veut une société de développement durable, mais si c'est pour pérenniser les rapports de force inégalitaires, bon, bah, laisse tomber, quoi. Donc voilà pourquoi on a épinglé Electrabel. Alors on va pas revenir sur la petite cérémonie qui a vu le directeur numéro 1 venir prendre ce prix, parce que bon voilà, on va pas lui donner trop le temps, mais surtout nous avons félicité l'opération théâtrale du Brocoli Théâtre qui se situe à Saint-Josse et qui, grâce au service de prévention de la commune, a mené un spectacle de théâtre action sur la base de la question de la mixité. La question de, dans un quartier, comment on est ensemble différents. Différents entre femmes et hommes, différents entre gens de confession et gens laïcs, différents entre les femmes et entre les hommes. Et en fait, le spectacle s'appelle Missing et parle de la disparition des femmes dans le quartier. Au départ, il y avait beaucoup d'habitants pour faire le spectacle. Et puis, petit à petit, ben, chacun est parti parce que difficile de se représenter sur scène, parce que sans doute, on touche à des tabous. Et donc, le spectacle qui montre aussi la fragilité de ce type d'initiative, mais aussi la persévérance du metteur en scène et de ses deux comédiens du résultat final, c'est aussi de montrer que voilà, l'égalité n'est pas là, la mixité n'est pas là, elle se construit et donc elle n'est pas a priori. Et nous, à Vie Féminine, c'est une chose qu'on défend vraiment beaucoup, c'est que ça se travaille, ça se construit et que l'égalité n'est pas là. Elle se construit par la force des gens, par la force des femmes et des hommes. Et voilà, donc nous avons vraiment félicité cette opération Missing, Théâtre Action, du Brocoli Théâtre, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut dire, voilà.
Merci Tamara, alors on a pris un tout petit peu de retard, donc je propose qu'on passe directement à un court intermède musical, donc c'est de la musique des Touaregs du Mali.
Voilà.
لما تايت ما سجدت يا غالنا
Oui, bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique. Évidemment, on vient de parler d'éducation et de l'intérêt de l'éducation pour l'émancipation des femmes, et moi je vous ramène à l'école, je suis désolée. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique, l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore, spécial 8 mars, journée internationale des femmes. Alors nous allons maintenant faire un petit détour subjectif en partageant avec vous des textes, des images, des récits de vie, des choses qui nous ont touchées. Et toi, Alexandra, on va commencer par toi. Tu as trouvé un texte de Benoît Groult qui t'a particulièrement touchée.
Oui, merci Hélène. Je voulais juste dire un petit mot avant sur le prix Jean Pince. Je voulais dire que personnellement, moi, je sais que la pièce se joue au Centre culturel des Verts le 28 mars et que j'invite tout le monde à y aller. Et je ne vais pas manquer d'aller voir cette pièce. Voilà, alors oui, donc moi j'ai choisi un texte de Benoît Groult. Alors je vais dire un petit mot sur cette femme qui est une journaliste, écrivaine et féministe française, qui est née en 1920 et qui s'est découverte féministe sur le tard, après la cinquantaine. Et elle a écrit plusieurs romans. Elle a notamment publié l'intégralité de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1986. Et donc cette déclaration a été rédigée par Olympe de Gouges, qui est une autre figure emblématique du féminisme, donc rédigée en 1791. Et donc voilà, Olympe de Gouges, c'est cette femme de lettres française qui est devenue femme politique et polémiste et qui a été guillotinée en 1793. Donc voilà.
On peut mourir d'être féministe.
Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de faire le lien avec cette femme-là. Heureusement, aujourd'hui, espérons-le, on ne meurt plus du féminisme. Donc, enfin, dans certains pays,
oui,
voilà.
C'est ce que je pensais.
Exactement.
On assassine les médecins qui font des avortements. Enfin, je sais pas.
Voilà. Donc. Tout ça est voilà, toujours très actuel. Donc le texte date de 1978 et il est très actuel aussi, vous allez le voir. Donc Benoît Groult écrit cet article à la suite d'un reportage pour l'ORTF, qui est donc l'ancienne télévision française, réalisé en Algérie, où les femmes musulmanes sont encore pour beaucoup astreintes au voile et à la réclusion. Elle écrit ceci. « Le terme « se consacrer à son foyer » est significatif. Il implique un renoncement. Or, un mari n'est pas un dieu, ni le mariage un vertige d'adoration et d'humilité, où l'on doit tout oublier sauf le service de l'être aimé. C'est une folie de laisser croire aux filles que cette chose attendrissante est fausse, que l'amour leur tiendra lieu de tout, y compris d'existence propre. Contrairement à trop d'idées reçues, la vie d'un couple n'est passionnante, donc durable, que dans la mesure où chaque élément existe par lui-même et pas seulement à travers l'autre. et aime la vie et pas seulement un homme. Acquérir une fidèle esclave est sûrement commode pour un mari. Ce n'est jamais très longtemps exaltant, ni pour lui, ni pour elle. Et s'oublier, même dans l'amour inconditionnel, peut être grisant un temps, mais finit bien souvent par laisser un goût d'amertume. Pourtant, tout se passe comme si les femmes se décervelaient volontairement pour se sentir plus sûrement dans un état, pour se confiner plus sûrement dans un état subalterne et irresponsable. Elles acceptent trop souvent de voler bas. Combien en entend-on se vanter de ne rien comprendre à la politique, à la mécanique, à l'électricité, aux affaires, au sport, bref, à ce qu'elles appellent en bloc des histoires d'hommes. Quelles preuves donnent-elles ainsi, sinon celles de leur manque de curiosité ? Si nous portons toutes plus ou moins un bout de voile, c'est qu'on se défait difficilement d'une manière de penser. Je le dis avec d'autant plus de modestie que moi, qui suis pourtant sur bien des plans une horrible suffragette, je porte ce voile. Dès qu'il s'agit par exemple de rugby ou de tout autre jeu de ballon, je feins de ne rien comprendre. Pourtant, je sais qu'on a toujours tort de ne pas vouloir comprendre. Que moins on se passionne pour le monde extérieur, et moins on est passionnant pour les autres. À commencer par soi-même. C'est pour avoir renoncé à tout ce qui n'était pas leurs activités ménagères que tant de mères de famille exemplaires se retrouvent fort dépourvues, la quarantaine venue. En Algérie, ce qui frappe chez toutes ces femmes qui passent leur journée entre femmes à parler de problèmes de femmes, c'est la dimension d'ennui qui pèse sur leur vie. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes doivent pêcher à la ligne, jouer à la belote, fumer la pipe, savoir changer une bougie, se passionner pour le tournoi des cinq nations et tenir des meetings politiques. Cela veut dire que toutes doivent pouvoir le faire, en tout cas toutes celles qui ne trouvent pas leur épanouissement dans des tâches ménagères et dans ces autres tâches qui passent pour des distractions, mais qui portent un nom si morne, les ouvrages de dame. On peut ne pas être une dame qui fait des ouvrages et être tout de même une vraie femme.
Merci Alexandra. Très rapidement, peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce texte.
Moi j'ai choisi ce texte parce que malgré qu'il date de 1978 on était quand même en pleine révolution féministe, je le trouve très actuel et universel. Et il me touche aussi par rapport à un milieu social, un milieu social peut-être plus bourgeois et où malgré tout, les inégalités touchent tous les milieux. Et alors j'aimais bien particulièrement cette phrase. Si nous portons toutes plus ou moins un bout de voile, c'est qu'on se défait difficilement d'une manière de penser. Et voilà, la difficulté d'être femme au quotidien dans sa cohérence et dans ses incohérences aussi, et comment on fait pour se défaire de cette manière de penser, je pense que qui nous conditionne, je pense que c'est quelque chose de très 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 fort comme sujet et qui nous touche toutes. Voilà.
On revient vers l'éducation. Et pas rien que celle des parents, celle de l'école aussi. Bon, on a très envie de dire des choses encore par rapport à ce texte, mais si on veut donner la parole à tout le monde, je propose qu'on passe directement à ce que Mélissa a préparé. Toi, tu avais envie de partager avec nous un autre extrait de ce livre sur mes 68.
Oui, en fait, il y a une musique là. Vas-y. Oui, voilà. Ça va aussi un peu dans le sens de créer sa vie et s'autoriser à avoir plus de liberté. Ici, c'est... c'est Chantal Cambronne. Elle a 32 ans au moment de mai 68. Oh, peut-être un break la musique. Alors, le mot, c'est créativité. En ce qui concerne le après, ce qui a été pour moi le plus extraordinaire, c'est la formidable éclosion de la créativité, de la création, à l'école, dans les spectacles, partout. J'y ai peut-être été d'autant plus sensible que j'avais une vie difficile, que je gardais encore beaucoup d'inhibitions. Mais lorsqu'on crée, tout cela s'efface, parce que c'est la personnalité tout entière qui s'exprime. Ainsi, alors que je me sens encore très coincée, je découvre dans les années 71-72 l'expression corporelle. Il ne s'agit plus là de performance physique, ce qui n'a jamais été mon fort, mais d'exprimer des choses avec mon corps. Je me rends compte alors que je suis chaude et vivante, que je sais dire, avec tout mon être, la solitude, l'attente, l'espoir, la rencontre. C'est une ouverture extraordinaire. Mais ce que je vis de plus important, c'est une rencontre d'été sur le thème création et créativité, animée par un architecte et une psychologue. Nous sommes là, une cinquantaine, venus d'horizons divers. Il y a toutes sortes d'ateliers. Terre, bric-à-brac, expression corporelle, peinture. On va où on veut, on change quand on veut. Les animateurs n'interviennent qu'à la demande. Les débuts sont laborieux. C'est déconcertant, une telle liberté. Mais le troisième jour, je crois, naît un escargot à trois têtes. Et là, je sais que ça y est, on est dans la création. Peu à peu, tout change. Les plateaux de repas sortent du RU, c'est le restaurant universitaire, parce qu'on a envie de manger dehors. On invente un arbre à musique. Les assemblées générales du soir, seul temps de rencontre pour tout le monde, se prolongent de plus en plus tard. Je me souviens, par exemple, de la prise de parole, lente et réfléchie, d'un jeune kiné qui, à partir d'un incident, médite à haute voix sur la prise de pouvoir qui peut prendre les formes les plus douces et les plus insidieuses. De magnifiques tableaux, peints par des gens qui n'ont jamais tenu un pinceau auparavant, apparaissent. L'expression corporelle, qui au début rappelle plutôt la danse classique, s'intériorise et devient très parlante. Dans la petite cuisine, installée à chaque étage, surgissent à portant de ses parquis, car tous partagent les victuailles les plus variées, les plus exotiques. On y boit et on y mange à toute heure du jour et de la journée. C'est le lieu des confidences et parfois des larmes. En ce qui me concerne, je vois bien que je ne sais rien faire de mes mains. La terre me résiste. Je ne sais pas draper autour de moi les tissus. Par contre, je sais rire et faire rire. Je comprends aussi que je sais regarder, reconnaître la création, le dire et en pleurer de bonheur. Au bout des 10 jours de stage, je peux repartir pleine d'une force nouvelle. Je sais que la création est partout et que moi, c'est ma vie que j'ai à créer.
Merci Mélissa.
Chantal.
Moi, la question que je voulais te poser, tu as choisi deux textes autour de mai 68. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces deux textes?
Parce que je pense que être femme, c'est avant tout, c'est fatigant, c'est avant tout une lutte en fait. Il faut avoir beaucoup de courage pour se libérer de schémas, de fonctionnements dans lesquels on a l'habitude de vivre. Et c'est parfois rassurant de se conforter dans ce qu'on connaît. Dans ce qu'on connaît, voilà. Et donc, ces femmes ont pris aussi mai 68, ça a été un peu une perche pour elles, pour justement essayer de comprendre ce qui les bloquait. Donc, la première, c'était les contraintes familiales. Elle a vite revu qu'en essayant d'y échapper, elle a répété de nouveau ses contraintes. Et elle a eu le courage de voir ce qui l'a coincé un peu et d'aller plus loin. Donc, comme elle dit, de retrouver son chemin à elle. Et la deuxième personne, c'est à travers un atelier d'expression corporelle où elle a senti que, en abandonnant aussi ses inhibitions, elle pouvait découvrir d'autres choses qu'elle connaissait pas à l'intérieur d'elle. Voilà. Et puis, j'ai choisi ces femmes qui ne sont pas connues parce que je pense que tout le monde peut s'identifier à elles.
Et que c'est la fête de toutes les femmes.
Et que c'est la fête de... Voilà.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, et ça me permet de repasser la parole à Virginie, c'est toute cette créativité à l'espace couleur femme, on connaît bien. Mais ce que toi, tu as choisi, tu as choisi de nous parler d'une personne. Alors, c'est Rosa Parks. Alors, je te propose d'en parler parce que je ne sais pas si nos auditeurs connaissent Rosa Parks.
Oui, merci. Justement, on a parlé... Justement, des luttes des femmes, des luttes féministes autour des années 50, 60 et que ça continue aussi jusqu'à maintenant. Et donc, Rosa Parks, c'est une nord-américaine. Elle est née dans les années, en 1913, décédée en 2005, qui a fait aussi une lutte en 1955 pour changer la situation aux États-Unis. Donc le texte que je vais vous lire, je l'ai retiré sur le site internet sur Rosa Parks. Il y a aussi d'autres informations donc sur Rosa Parks que vous pouvez trouver. Donc elle était une fille d'un charpentier et d'une enseignante. Elle a été élevée par sa mère et ses grands-parents. Ce dont elle se souvient, c'est que toute petite fille, son grand-père lui répétait: n'accepte jamais les traitements iniques d'où qu'ils viennent. Ne baisse jamais les bras devant l'injustice. Sa mère aussi lui recommandait d'être digne. Sois fier d'être ce que tu es. Deviens quelqu'un qui sera respecté par les autres et qui les respectera aussi. Pionnière dans la défense des droits des Noirs américains, Rosa Parks est entrée dans l'histoire des États-Unis pour avoir refusé, dans un bus, de céder sa place assise à un blanc le 1er décembre 1955 à Montgomery, à Alabama. La règle était que le noir devait laisser sa place au blanc dans le transport public. Rosa Parks, ce jour-là, reconnut le chauffeur qui l'avait éjecté du bus 12 ans auparavant car elle avait refusé de ressortir du bus pour remonter à l'arrière comme l'exigeait le règlement local. Elle était assise dans l'aile charnière et contrairement aux autres passagers, elle a refusé de se lever quand des blancs ont eu besoin de s'asseoir. Alors ça c'est Rosa Parks qui parle. On a souvent dit que j'avais refusé de céder ma place ce jour-là parce que j'étais trop fatiguée. Mais ça, ce n'est pas exact. Je n'éprouvais pas un sentiment de fatigue physique, ou du moins pas plus qu'à l'accoutumée, après le travail, qu'il m'était impossible de bouger les pieds, que j'avais mal aux pieds. Or, ce n'est pas aux pieds que j'avais mal, mais dans mon cœur d'être humain. Ma fatigue était plutôt morale. À cette époque, elle militait déjà dans des associations de défense des droits civiques. À l'agent de police qui vient l'arrêter, elle lui posa la question suivante. « Pourquoi tant de persécutions ?» Ce dernier de répondre « Je l'ignore, mais la loi est la loi et je vous arrête. » Comme c'était la coutume à l'époque, Rosa Parks a été jugée coupable et elle a été condamnée à payer à une amende de 15 dollars. Après consultation avec l'avocat, son époux et sa mère, Rosa Parks accepte de contester en cour la loi sur la ségrégation qui avait conduit à son arrestation. Ce que la police n'avait pas prévu, c'est qu'un mouvement très fort se créerait autour d'elle. Très rapidement, il fut décidé de boycotter la compagnie de bus jusqu'à ce qu'elle arrête ses pratiques ségrégationnistes. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême a rendu son verdict. Les lois ségrégationnistes de Montgomery ont été déclarées illégales. Après 382 jours de boycott, la communauté noire avait gagné et obtenu le droit à un traitement équitable dans les bus. En 1999, Rosa Parks a reçu des mains de Bill Clinton la médaille du Congrès américain. Il s'agit de la plus haute distinction pouvant être décernée par le gouvernement américain. Bill Clinton a notamment déclaré « De bien des façons, Rosa Parks a permis à l'Amérique de redevenir ce que nos pères fondateurs avaient rêvé. » Elle avait déjà reçu en 1996 la médaille présidentielle pour la liberté. Donc on voit bien déjà sa photo ici avec Bill Clinton. Et puis alors ici, je vous parle quand de sa mort. Tout d'abord, cette femme admirable a joué un rôle indéniable dans l'histoire de la liberté humaine. Rosa Parks résida à Détroit jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Après son décès, la classe politique dans son ensemble lui a rendu hommage. Le président George W. Bush a honoré sa mémoire dans une allocution télévisée et sa dépouille est restée exposée deux jours dans la rotonde du Capitole pour un hommage public. Privilège réservé d'habitude aux hommes politiques et aux soldats, Rosa Parks est la 31e personne après l'ancien président Ronald Reagan en juin 2004 et la première femme à recevoir cet honneur. Des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles le 2 novembre 2005 et une estimation fait état de 60 000 Américains à lui avoir rendu hommage dans les premiers jours qui suivirent son immunation dans son état natal à Alabama et à Washington. De nombreuses personnalités y ont assisté, l'ancien président Bill Clinton et la sénatrice de New York Hillary Clinton. Le président américain avait également décrété que tous les drapeaux soient mis en berne le jour de son enterrement.
Euh, On t'écoute, Virginie.
Oui. Je continue?
Oui, tu peux vraiment continuer. On pensait qu'on devait se dépêcher.
Oui.
Enfin, j'explique un petit peu aux auditeurs. On pensait devoir se dépêcher, mais les personnes qui présentent l'émission suivante ne sont pas là. Il nous reste 5 minutes.
OK. Alors, on parlait de son décès. À ses obsèques, le bus dans lequel s'est déroulée l'arrestation de Rosa Parks a été drapé dans un linceul rouge et noir jusqu'aux obsèques officielles. Enfin, la première place des bus de Montgomery sont restées vacantes jusqu'au jour de son enterrement. Elles furent recouvertes d'une photo de Rosa Parks entourée d'un ruban noir portant l'inscription suivante. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise.
C'est chouette.
Alors, il y a des réactions justement dans le monde pendant son enterrement.
Moi, Virginie,
oui?
je voulais te demander... En fait, toi, tu as choisi ça. Alors, il y a sûrement une raison.
Donc, pour ce texte de Rosa Parks, je la trouve, c'était juste pour dire, Rosa Parks, pour moi, c'était une toute petite femme qui a eu le courage de dire non aux injustices pour se faire respecter tout en respectant les autres. Mais aussi, elle voulait changer sa vie et la vie des autres pour vivre dans une société et dans un monde meilleur, paisible et non violent. Voilà, c'est ça que j'ai retenu de ce texte.
D'accord, merci Virginie. Alors peut-être pour arriver vers la fin d'émission, Catherine Jacques, on a partagé des expériences, des anecdotes, des réflexions. Est-ce que l'historienne que vous êtes a quelque chose à rajouter?
Oui, c'est-à-dire que ce qui est frappant dans l'histoire de Rosa Parks et aussi dans les autres, expériences qui ont été évoquées, c'est de montrer que finalement, de nombreux actes de femmes et le mouvement féministe et l'engagement pour le droit des femmes est un acte politique et s'inscrit dans le politique. Et je trouve que l'hommage qui a été rendu à Rosa Parks, enfin décédée, son cercueil qui a donc été exposé dans la rotonde de la Maison Blanche, c'est intéressant parce que ce n'est pas un homme politique, c'est pas une femme politique quelque part, mais c'est une femme politique dans toute sa dimension citoyenne. Et ça, c'est extraordinaire. Et il faut bien se rendre compte que c'est un mouvement politique qui rend finalement toute la dignité aux femmes et leur dimension de citoyenne. Mais les femmes sont des citoyennes beaucoup plus amples finalement que les hommes, qui réduisent souvent l'acte de citoyenneté à simplement un engagement politique. Il faut être élu, il faut être éligible sur les listes électorales, etc. Tandis que nombreuses femmes ont finalement un engagement qui est beaucoup plus dans la société civile. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Et je crois aussi qu'il faut pas, les femmes ne doivent pas se comporter en hommes. Elles ont plein de richesses en elles. Elles doivent arriver à les faire respecter et surtout à, sans doute que le dernier combat qui nous, un des gros, pas le dernier, mais certainement le plus dur finalement à mener, c'est lutter contre les stéréotypes à la fois masculins et féminins. Et je crois que le prix La Vie Féminine contre décerné à la pub d'Electra Bell est tout à fait significatif. C'est quand même assez amusant de se dire que c'est cette grosse société qui a plein de pognon, qui va a certainement payer énormément des publicitaires pour leur donner les messages qui devaient être portés auprès du public pour que ce soit porteur dans l'air du temps. Ils l'auront réussi avec l'énergie renouvelable, mais paf, ils retombent sans s'en apercevoir dans les stéréotypes les plus sexistes. Extraordinaire, je trouve.
Oui, c'est comme les publicités Oxfam qui sont horriblement sexistes, même si la cause qu'Oxfam défend est juste, oui, les moyens est totalement aberrant.
Ce qui prouve bien qu'on n'est pas, la majorité des gens ne sont pas habilités à décoder finalement le sexisme qui est un sexisme ambiant et quotidien. Et c'est ça finalement qui fait le plus de tort aux droits des femmes.
J'ai l'impression qu'on parle beaucoup, beaucoup du sexisme et que c'est parfois très... plus on en parle, moins on sait le décoder, moins on... Enfin, voilà, il y a quelque chose là-dedans.
Oui, c'est étonnant.
Et moi, personnellement, je trouve qu'on est encore... ça rejoint ce que vous dites, confronté à beaucoup de stéréotypes. On se dit que les mentalités ont évolué et quand on creuse un peu, on remarque qu'il y a encore... Enfin, le conditionnement est encore vraiment là. Et en même temps...
comme dit Benoît de Groot, justement, c'est, ça prend du temps, c'est difficile de se défaire de ce conditionnement-là, et c'est pour ça que, qu'il faut continuer. Donc,
Mais je pense qu'une vie ne suffit sans doute pas, mais ce sont des relais qu'on va passer, je dirais, à nos filles, à nos aux autres femmes, et je veux dire, comme d'autres nous en ont passé. Et je trouve que c'est ça qui est c'est ça qui est beau, quelque part. C'est cette idée que, ben voilà, le féminisme, c'est un relais qu'on passe.
La transmission aussi.
Oui.
Voilà, ben on va devoir déjà clôturer notre émission. Merci à tout le monde. Donc si le thème vous a intéressé et que vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Vie Féminine Bruxelles au 02 513 69 00. Donc au 02 513 69 00 ou aller sur notre site. Alors je vous remercie toutes et je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices une bonne fête des femmes en espérant qu'un jour on fête la fête de l'égalité. Voilà, bonne journée à vous.
Merci.
Merci à tout le monde.
Au revoir à tous.
Merci Hélène.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.